Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Michel Raymond. Bonjour Michel.
Bonjour Myriam.
Alors l'agence s'appelle Michel Raymond et Associés. Donc on va en discuter évidemment tout au long de cette interview. Ça fait quoi 40 ans de bons et loyaux services, surtout sur des projets complexes,
hein? 40 ans. D'abord j'aimerais bien corriger un truc.
Pardon. Excuse-moi alors, j'ai fait une erreur.
Non, c'est pas une erreur, c'est une coquetterie de ma part. J'aime pas dire agence, j'aime mieux dire atelier.
Ah voilà. Oui, tu as raison.
Une manière où on fabrique des choses.
Le côté artisanal, de la fabrication.
Oui, et puis travail d'équipe aussi, voilà. Mais 40 ans, c'est d'abord un parcours qui est important, qui n'est pas fini, puisqu'on va raconter comment il se prolonge. C'est un parcours où on a eu le sentiment tous, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début, pas mal même, de faire de mieux en mieux, voilà, c'est tout.
Donc l'idée, c'est de faire équipe, parce que justement, tu as des collaborateurs qui sont là depuis le début. Alors comment fait-on pour garder une équipe malgré le vent et les marées, puisque tu aimes bien la voile?
Oui, d'abord en les traitant correctement, donc ça peut être une banalité de dire que, comme beaucoup d'autres agences maintenant, on respecte tout le code du travail, les 35 heures, les machins, les trucs. On travaille dans des horaires
normales.
Voilà, on fait pas de folklore, de charrettes et de choses comme ça. On a des locaux confortables, bien placés, ce qui fait que pour les gens, c'est agréable de venir travailler parce que ça fait aussi partie de la qualité de la vie, ça. On a des outils très très performants, informatique aujourd'hui très au point, et un certain nombre de choses qui donnent le sentiment aux collaborateurs d'être dans un endroit qu'ils respectent.
Voilà. Donc ça, c'est une des parties de l'ADN de l'agence, de l'atelier. mais alors, une autre partie, puisqu'on est justement dans le côté atelier artisanal, comment fait-on pour avoir justement cet esprit, entre guillemets, artisanal, pour faire des objets aussi complexes que des hôpitaux, des labos, des espaces d'enseignement? Ça, c'est peut-être un tout petit peu moins complexe, mais bon, le côté, on va dire artisanal à côté du projet complexe, avec une programmation et avec, justement, une fonctionnalité difficile, parfois.
C'est l'envie et le plaisir de se confronter à des choses extraordinaires de la société. Le premier bâtiment complexe qu'on a fait comme ça, c'était un laboratoire de police scientifique à Lyon, où j'avais jamais fait de bâtiment de laboratoire avant, et on a été confronté à des fonctionnalités très particulières, laboratoire de balistique, laboratoire de produits de drogue, de laboratoire d'explosifs, laboratoire de tas de trucs invraisemblables.
On se prend pour James Bond?
Ah, tout à fait, oui. D'accord. Mais surtout, on était avec un flic.
Ouais.
Il s'appelait lui-même comme ça, qui était à la fin de sa carrière, Monsieur Barthes. Et qui aimait ce métier, qui aimait travailler avec nous et avec qui ça a été une super histoire, quoi. On a gagné un concours d'abord, qui avait plu aux utilisateurs, forcément, notre projet. Et après, le mettre au point ensemble, ça a été un vrai plaisir parce que, on l'écoutait, il nous écoutait et on a fait le projet ensemble, voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a un programme, que ce programme, il est évidemment fait par un programmiste qui lui-même est en relation directe avec le futur utilisateur. Et là, via le flic, puisque c'est comme ça que tu l'as appelé, c'était évident que les futurs utilisateurs allaient adhérer à vos échanges.
Il y a toujours des frictions, parce qu'il y a toujours des gens un petit peu bizarres qui viennent mettre un peu d'isanie. Mais globalement, oui, les utilisateurs adhèrent parce qu'il y a, ce que tu dis, un filtre entre qui est représenté par le programme et qui est représenté par un maître d'ouvrage qui décide, qui tranche entre d'éventuels besoins démesurés des utilisateurs et ce qui est possible de faire dans le cadre du budget, forcément, et dans la place du terrain, et dans le délai, dans toutes ces choses-là. Il y a un moment, il y a toujours besoin d'un débat, quoi.
Alors, est-ce à dire que la fonctionnalité prime sur l'insertion dans la ville,
hein? Bien sûr que non. Mais la fonctionnalité, un bâtiment sans fonctionnalité, quand la société dépense des millions et des millions pour construire un bâtiment, si c'est juste pour faire joli, c'est un peu stupide. Donc un bâtiment, d'abord, ça sert à quelque chose. ce qu'on fait en tout cas, que ça soit un stade de foot comme on en a fait, ou moi quand j'ai fait un stade de foot, je savais pas du tout comment ça marchait, j'avais jamais été dans un match même de ma vie, je m'intéressais pas spécialement au foot, mais
tu préfères le rugby?
Non.
Non.
Ni l'un ni l'autre. Mais c'est un fait social et c'est. On a appris. On a visité plein de stades. Celui de Caen, celui d'Amiens, celui de je sais plus où. Et celui de stade de le Parc des Princes qui est extraordinaire. Et on a essayé de comprendre comment ça marchait. Et ça marche d'une manière très très particulière. Et on a essayé d'adapter ça pour que ça marche. Et puis on a gagné le concours. Ça voulait dire que ce qu'on avait compris était la bonne compréhension. Mais bien sûr que ça doit marcher.
Mais les hôpitaux, on va dire que la différence entre un stade, alors c'est un peu simpliste de dire ça comme ça, mais dans les utilisateurs ne sont pas extrêmement nombreux. Ce qui est nombreux, c'est le public. Et dans un hôpital, on est peut-être justement dans une complexité où les fonctionnalités se mélangent à l'humeur des êtres humains. Par exemple, des médecins, par exemple, des laborantins, et aussi au bien-être des patients.
La communauté médicale, c'est quelque chose de complexe, parce que c'est à la fois l'infirmière, c'est à la fois le logisticien, c'est à la fois le chirurgien, c'est beaucoup de monde, c'est l'administration, c'est les gens qui financent, c'est les services achats, c'est tout un tas de choses, tout un tas de gens, pardon. Et ces gens-là doivent être organisés suivant un système qui permet de les consulter de façon intelligente et équilibrée. Alors, le programmiste fait ça, il y a plusieurs systèmes de consultation de programmistes, comme ça. J'en ai fait des très très particuliers, très complexes, dont un à Lyon, avec Capgemini et Vincent Sainte-Marie-Gauthier, un système qui s'appelle le Lean Design.
Voilà, c'est ça, je voulais que tu nous parles un petit peu, parce que on a l'impression que cette manière de faire Lean Design répond à un certain nombre de questions. Il y a beaucoup de monde. Tu peux nous donner un peu plus d'explications sur ce système?
D'abord, quand on fait un nouvel hôpital, c'est pour remplacer un ancien qui marchait pas très bien, qui a été souvent en France, c'est un ancien qui avait été conçu dans les années 50.
Oui, c'est ça, un hospice
hôpital, là, ouais. À Lyon, ils faisaient des opérations assez phénoménales, mais dans des bâtiments, dans des salles d'opération, des bâtiments qui étaient assez obsolètes quand même. Et passer de 50 ans de progrès d'un coup comme ça, c'est pas facile. Donc, la directrice, qui est quelqu'un de très important dans le dispositif, bien sûr, à chercher d'abord à redéfinir les manières de travailler contemporaines, avant de faire les locaux. Mmh. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas dans leur manière de fonctionner ?
C'est-à-dire d'avoir un consensus ?
Pour aboutir à un consensus, mais d'abord réfléchir comment on amène la logistique, comment le médecin arrive le matin, comment il s'enlève sa veste en arrivant, etc.
Une promenade, quoi.
Oui, toute la journée, les systèmes, les besoins médicaux, etc., etc. Et petit à petit, tout ça, ça fabrique petit à petit une définition des besoins, pas seulement pour le projet, pour l'ensemble de l'hôpital. Et après, dans un deuxième temps, il y a une deuxième étape. Comment on va programmer des surfaces de l'hôpital et des organigrammes, on va dire, c'est-à-dire que les liaisons entre ces différents éléments de programme, pour arriver à faire un programme de bâtiment qu'on donne à des maîtres d'œuvre pour qu'ils fassent un concours, qu'ils répondent à un concours, et après le lauréat met en musique cette chose-là plus en détail.
Et alors comment fait-on pour avoir le sentiment, ou la réalité, on va dire, de pouvoir sortir de ce chemin? Parce que là, on a l'impression que c'est un espèce de monobloc, le programme, la fonctionnalité, l'argent qui va avec, les limites. Et l'architecte là-dedans, ou l'équipe d'architecture, le paysage, comment vient-on justement amener, je sais pas, un petit peu d'esprit de rébellion peut-être parfois?
Non, parce que respecter le programme, c'est pas du tout une convention, une abdication non plus. C'est quand on fait un projet, dès qu'on trace un trait, on pense à tout à la fois. Souvent, moi je parle beaucoup du programme parce que souvent on n'en parle pas assez. Donc j'en parle beaucoup, mais il y a bien sûr pas que ça. Quand on fait un trait, quand on fait un terrain, quand on voit un terrain, quand on marche sur un terrain, quand on voit un bâtiment existant, quand on va transformer un bâtiment existant, quand on va s'accoler à un bâtiment existant, tout ça, c'est des choses où petit à petit, il y a un certain nombre de...
Donc le contexte.
Oui, le tout, le ciel. On a, quand on construit à Lille, quand on construit à Bruxelles, c'est pas le même ciel qu'à Lyon ou qu'à Marseille ou que même en Algérie où je construis aussi ou au Maroc. Le ciel, l'orientation, où est le sud, où est le nord, tout ça, c'est forcément très important. Dès que le programme nous fait mettre un local au sud ou un local au nord, forcément, c'est pas la, ça va pas être la même réponse de façade et de choses comme ça. C'est tous ces un architecte. Il est censé avoir un peu d'expérience quand même, il est censé avoir réfléchi, moi c'est mon cas je pense, à toutes ces questions-là depuis que j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, et donc ces questions-là finalement c'est on les porte en soi, on les a au fond de son cœur, de son âme, de son corps, et quand on fait un élément de programmation, forcément toutes ces choses-là sont embarquées en même temps. Après on en parle moins, c'est plus intime, et ça sort au moment de faire le programme, de faire le projet, quand on fait le projet.
Et comment on fait pour le partager avec l'équipe, justement?
Ah bah parce que c'est ensemble qu'on le fait.
Parce que l'intimité, c'est compliqué.
Oui, mais ça, c'est partager. Non, justement, il y a des personnes dans mon atelier avec qui on partage cette intimité. C'est pour ça aussi que ça fait équipe, parce que sinon ça marcherait pas. Le côté de l'architecte qui décide tout et qui fait gratter à des petites mains, ça existe plus, ça depuis longtemps. Non, c'est des choses qu'on partage. C'est un travail collectif, même s'il y a un moment, il y a un qui décide. Mais en général, on décide après avoir.
Alors ça, c'est des bâtiments publics. Ouais. Quand on arrive à du privé et à la manière de faire avec des interlocuteurs qui sont des maîtres d'ouvrage privés, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que du coup, on n'approche pas un petit peu plus la nature humaine? Il n'y a pas le filtre du public.
Les maîtres d'ouvrage privés font parfois souvent comme les maîtres d'ouvrage publics, parce que ça reste un cadre qui simplifie les choses, de le respecter. On a eu une expérience avec le groupe Air Liquide, où justement, on a fait un projet pour leur centre de R&D à Saclay, où justement, le maître d'ouvrage était pressé, voulait pas faire de concours, donc il a choisi des maîtres d'œuvre sur la base de déclarations d'intention de comment ils aimaient travailler. Et donc, on a gagné cette démarche, et on a fait le projet avec un monsieur Delabroix, qui est un type extraordinaire, qui nous a fait confiance. Alors ça, déjà, quand le maître d'ouvrage nous fait confiance, il en récolte forcément tous les bénéfices, c'est formidable.
Ça veut dire qu'il n'est pas interventionniste, ça veut dire qu'il
s'est resté à sa place. Si, il est interventionniste parce qu'il est seul à savoir, l'ambition qu'il veut, que le bâtiment doit représenter.
Est-ce qu'il sait vraiment, tout le temps?
Il fait confiance. Il voit quand on lui dit quelque chose si ça lui correspond ou pas, et donc on a fait le projet, on a mis une page blanche au milieu de la table, vraiment ça s'est fait comme ça, hein. C'était au mois d'août en plus, c'était pas très commode, mais c'était le deal. On a mis une page blanche au bout de la table, on lui a montré des images de référence, on lui a dit si on fait comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, on lui a dit pourquoi, on faisait des croquis.
Ça veut dire que c'est in vivo, il était obligé de réagir.
Ouais.
Mais c'est...
Ouais. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça peut pas toujours marcher, ça a marché. C'est pour ça que les maîtres d'ouvrage privés, chaque fois, c'est très différent. Il y a des maîtres d'ouvrage privés où il y a une armée mexicaine de décision. Là, il y en a où c'est une personne qui décide. Alors c'est plus facile. Les maîtres d'ouvrage privés, il y a tout est. Le maître d'ouvrage public, c'est très organisé par la loi, par les codes des marchés publics, par la loi MOP, par tout le bazar. Les maîtres d'ouvrage privés font ce qu'ils veulent. Donc après, il y a j'imagine que construire avec Bernard Arnault, ce qui ne m'arrivera jamais, c'est autre chose. Mais c'est un monsieur qui décide tout, c'est autre chose. Enfin, chaque maître d'ouvrage privé a sa propre méthode et c'est normal. Donc après, c'est à nous de nous y adapter. Il y a des fois aussi, certains maîtres d'ouvrage privés qui veulent nous expliquer ce qu'il faut faire. Moi, ça me donnerait envie de m'en aller et de ne pas commencer. Hein. On a le droit.
Mais tu te retiens?
Non, pas forcément. Ça m'est arrivé de refuser des choses parce que j'ai passé l'âge de faire des compromis, comme on dit. Parce que les compromis, c'est pas très marrant. Voilà.
Bon, on n'a pas fait le tour de la question, Michel.
Non.
D'accord? Donc. Au revoir, chers auditeurs, au revoir Michel, et à bientôt pour une deuxième interview. Merci.
Au revoir.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.